Et pour ce jour, nous entendrons plusieurs textes bibliques pour illustrer le thème. Le thème, c'est donc les fêtes agricoles de la Bible. Puisque c'était une fête aujourd'hui, on s'est dit que c'était pas mal de revisiter en fait un peu le sens des fêtes. Donc le premier texte se trouve dans le livre du Lévitique au chapitre 23, les trois premiers versets. L'Éternel parla à Moïse et il dit « Parle aux Israélites, tu leur diras, les solennités que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour férié. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel partout où vous habiterez. » Et puis tout le chapitre 23 sont énoncées les 7 fêtes principales. Alors, je ne vais pas vous lire le chapitre 23 du Lévitique en entier, mais juste le verset 22 qui termine en fait l'institution de la fête de Shavuot qui est Pentecôte pour nous. « Quand vous ferez la moisson de votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'immigré. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Ensuite, dans le livre de l'Exode, chapitre 20, les versets 8 à 11, c'est l'institution du sabbat, donc. « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. » Et puis il y a un autre livre, le livre du Deutéronome, où l'on trouve également les 10 paroles, ou les 10 commandements, suivant leur appellation, qui sont identiques, sauf justement l'institution du sabbat. C'est pour ça que je vous lis les versets 12 à 15 du chapitre 5 du Deutéronome. « Observe le jour du sabbat pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a commandé. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a commandé de célébrer le jour du sabbat. » Et enfin, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 2, les versets 23 à 28. « Il arriva un jour de sabbat que Jésus traverse des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mettent à chercher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Vois, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis le jour de sabbat ?» Jésus répond, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui et ses gens? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiathar, mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'au sacrificateur de manger et en donna même à ses gens. Puis il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Amen. Et nous chanterons. Alors, il y a de nombreuses fêtes instituées dans l'Ancien Testament, fêtes encore célébrées par les Juifs aujourd'hui. Et la plupart de ces grandes fêtes ont un rapport avec des célébrations agricoles. D'ailleurs, il est probable que toutes ces fêtes trouvent leur source dans des rites ou des célébrations qui les ont précédées, rites ou célébrations païennes. Dans ce passage du Lévitique au chapitre 23, Alors c'est quand même assez rare qu'on prêche sur le Lévitique, mais pourtant c'est un livre très intéressant. Mais en tout cas, au chapitre 23, sept grandes fêtes sont instituées. Sept, vous l'entendez bien, c'est un chiffre éminemment symbolique. Sept pour nous dire la plénitude et évidemment le contraire si l'on ne respecte pas ces sept fêtes. Sept comme les sept jours de la création et sept comme les sept jours de notre semaine. Et d'ailleurs, l'énumération commence par le sabbat. Et au creux de ces grandes fêtes, à l'intérieur, il y en a trois principales, en tout cas trois fêtes qui sont des fêtes de pèlerinage, où, à l'époque où ce texte était écrit, eh bien, tous les Juifs montaient à Jérusalem. Alors, je ne vais pas les donner forcément dans l'ordre pour aujourd'hui, puisque vous savez, on fête le début de l'année juive à peu près au mois de septembre. Mais je vais commencer par Pâques. Pâques, cette fête qui célèbre la sortie d'Égypte, est à l'origine, en réalité, de la fête de la récolte printanière, première récolte, celle des premières céréales, c'est-à-dire l'orge. Mais c'est aussi une fête qui célèbre donc la sortie d'Égypte et la libération du peuple hébreu. Ensuite, Shavuot ou Pentecôte, qui se célèbre sept semaines, encore sept, vous voyez, sept semaines après Pâques, et célèbre le don de la loi, c'est-à-dire lorsque Moïse reçoit la loi sur le mont Sinaï, mais c'est également une fête qui nous rappelle le passage du printemps à l'été, qui correspond au mûrissement des fruits et la première grande récolte du blé d'été. Et c'est aussi la fin de la récolte de l'orge. Alors c'est vrai que dans nos civilisations, on est un peu loin de tout ça, mais pourtant, eh bien, tout est rythmé encore à cette époque-là, lorsque le texte est écrit par, eh bien, par les récoltes, par l'agriculture. Et enfin, la dernière fête de pèlerinage, bien après, plutôt au mois de septembre, eh bien, elle clôture justement. Après, il n'y a plus de récolte. C'est la fête des cabanes où l'on fête également l'exode, c'est-à-dire le départ du peuple hébreu, mais aussi tout ce temps où il va vivre dans la précarité. La récolte qui marque la fin du cycle agricole annuel. Ainsi, toutes ces fêtes de pèlerinage sont profondément ancrées dans des rites agraires. Ce n'est pas un hasard. Et puis d'ailleurs, il y a un lien, en réalité, entre la dimension agricole et la dimension théologique, spirituelle. Il y a un vrai lien. Déjà, en réalité, cela nous invite à dépasser un peu les problèmes de culture, même s'ils sont importants. Cela nous invite à dépasser, nous rappelons ainsi, et ça nous le disons un peu dimanche après dimanche, depuis que nous prêchons sur le thème de la création, eh bien, la terre nourricière, cette terre qui nous donne ses cultures en temps et en heure, quand tout va bien, parce qu'on le sait bien, parfois il arrive des catastrophes qui font que cela... on ne peut récolter comme on le souhaiterait, eh bien cette terre nourricière n'est pas du tout ce que nous devons adorer. Dans les fêtes païennes, avant, en effet, on adorait la terre, le soleil, la lune, enfin tous ces éléments de la nature. Mais en réalité, en plaçant des fêtes profondément spirituelles sur ces temps, eh bien sur ces temps qui avant fêtaient la nature, eh bien, les auteurs bibliques ont voulu porter notre regard au-delà. Au-delà de ce que nous pouvons attendre de la terre. Un au-delà qui nous dit déjà et qui peut aussi nous permettre de prendre du recul sur ce que la terre ne nous apporte pas parfois. Parce que nous le savons bien, les pluies, la grêle, les catastrophes font que parfois, en effet, les récoltes sont mauvaises, voire inexistantes. Aujourd'hui encore, eh bien, nous l'entendons à travers souvent notre poste de télévision, et c'est vrai que dans Paris, c'est un peu difficile de s'en rendre compte, mais que les vignes ont été absolument massacrées par la grêle, que le blé n'a pas pu, surtout le maïs d'ailleurs, n'a pas pu pousser parce qu'il y avait trop de soleil et pas assez d'eau. Ainsi, la terre ne nous donne pas toujours ce que nous espérons. Cela ne nous empêche pas, et cela n'empêche pas la Bible de nous dire qu'il faut continuer à la travailler, à faire que cette nature que Dieu nous offre, nous puissions continuer à travailler, à travailler avec elle pour en faire quelque chose qui nous donne du fruit. Mais cela nous dit aussi que notre confiance, notre espérance n'est pas à placer uniquement dans cette nourriture terrestre, mais également dans une nourriture spirituelle. Ces fêtes nous rappellent la bonté de Dieu, Dieu qui libère son peuple. Ainsi, la fête de Pâques, c'est celle de la libération. Dieu qui offre cette loi, et nous y reviendrons tout à l'heure à cette loi dans un cadre, dans un récit narratif, dans un récit qui nous dit eh bien, qu'il est un Dieu qui libère. Ainsi, cette loi n'est pas là pour nous contraindre, mais bien pour nous libérer. Et un Dieu aussi qui nous rappelle notre précarité, notre finitude dans la fête de Shavuot qui nous rappelle que eh bien, le peuple a erré dans le désert, mais nous aussi, aujourd'hui, nous sommes souvent appelés à errer, à la fois dans nos vies, dans nos existences, de manière parfois intérieure, et malheureusement pour d'autres, eh bien, les exodes se succèdent. Cette vie, ainsi, est faite de précarité, et ces fêtes sont là pour nous rappeler notre finitude, mais aussi que Dieu est là. Il est à l'œuvre pour nous donner ce dont nous avons besoin lorsque nous en avons besoin, lorsque nous portons nos regards sur lui. Alors, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas forcément ce que nous attendons. Il faut bien faire la différence, parce que parfois nous attendons eh bien, les récoltes, alors prenez-le de manière symbolique, et Dieu nous donne tout à fait autre chose, une consolation, un mot, un geste. Eh bien, c'est cela auquel nous sommes appelés lors de ces fêtes. Et aujourd'hui, nous ne fêtons pas ces fêtes exactement de la même manière, mais après tout, Pâques et Pentecôte sont aussi des fêtes chrétiennes. Bon, Shavuot un peu moins, mais il y a de nombreuses fêtes auxquelles nous sommes appelés. Et nous sommes surtout appelés à leur donner un sens nouveau, à ne pas nous enfermer dans les rites. Ainsi, c'est ce que nous disent ces instaurations de fêtes. Et puis, lorsqu'on va un peu plus loin dans le texte, vous l'avez entendu, il y a l'instauration du glanage. Et puis, juste un peu plus loin, il y a l'instauration de ce qu'on appelle l'année sabbatique et l'année du jubilé. Alors, ça marche encore par sept. Hein. Tous les sept ans, eh bien, il faut laisser la terre un peu se reposer. Et puis, tous les 7 × 7, 49 ans, eh bien, il faut laisser tout se reposer. Comme pour nous dire que, justement, nous ne devons pas exploiter tout jusqu'au bout. Nous devons garder une petite part, une petite chose qui fait que la richesse peut continuer. Ainsi, dans ce texte qui parle de fête, tout de suite, il y a également des prescriptions éthiques. Bon, nous pouvons faire la fête, mais pour donner du sens à ces fêtes, il faut également se plonger un peu dans les prescriptions éthiques. Ainsi, aujourd'hui, cette année du jubilé, tous les 49 ans, nous sommes invités à laisser la terre complètement au repos, la terre et les humains. Nous sommes invités, de manière tout à fait symbolique, ça n'a jamais été fait, donc il ne faut pas non plus appliquer les choses à la lettre. Ça n'a jamais été fait, même à l'époque où le judaïsme était très strict. Nous sommes tout de même invités à réfléchir pour ne pas exploiter à outrance, car il ne reste rien. Nous sommes invités aussi ainsi à être soucieux de ce qui nous est confié dès la création. Et puis cette pratique du glanage, vous savez, il est dit, vous l'avez entendu tout à l'heure lors de la lecture, qu'il faut laisser sur les coins quelques graines pour ceux qui passent pour les pauvres. Alors là aussi, ça a une partie tout à fait symbolique, parce que ces quelques graines ne sauraient jamais suffire à nourrir tous les pauvres de la planète, déjà à l'époque et encore aujourd'hui. Ainsi, nous sommes là aussi invités à réfléchir sur la dimension fortement symbolique qui est là comme une alerte contre le désir de tout dominer et de tout posséder et nous éveiller surtout aux besoins des autres. Il ne s'agit jamais de déposséder dans la Bible. Contrairement à ce que l'on peut croire, la Bible n'invite pas à être pauvre ni ne condamne la richesse en elle-même. Mais la pratique du glanage a pour but de rendre attentif, voire de rendre créatif, ce n'est pas toujours simple, celui qui possède afin de ne laisser personne sur le bord de la route. En réalité, ce qui nous est dit là, c'est que l'accomplissement de la loi, c'est justement le dépassement de la loi. Il faut aller au-delà, savoir créer. Et d'ailleurs, tous ces textes sont toujours un lien très fort avec le texte de la création. Et maintenant, nous allons nous intéresser un peu plus au sabbat. Alors le sabbat, nous l'avons oublié, c'est aussi une fête peut-être pas agraire, mais en tout cas, au départ, c'était une fête absolument pas hebdomadaire, c'était une fête mensuelle qui célébrait la nouvelle lune, l'arrivée de la nouvelle lune. Et tous les jardiniers, même amateurs, savent combien la lune est importante lorsqu'il faut planter, lorsqu'il faut récolter. Donc, il s'agit bien d'une fête en lien avec la nature. Ainsi, elle est devenue, au fur et à mesure que le judaïsme se créait, ou du moins apparaissait, une fête hebdomadaire. Mais vous l'avez entendu, les raisons du sabbat, que ça soit, n'ont pas exactement... l'institution des sabbats n'a pas exactement la même raison que ce soit dans le récit de l'Exode ou dans le récit du Deutéronome. Alors, vous me connaissez, loin de mettre en opposition ces deux raisons, eh bien, nous sommes invités à les tisser ensemble. La première, dans le récit de l'Exode, on nous dit qu'il faut se reposer le septième jour parce que Dieu s'est reposé le septième jour. Bon, c'est une bonne raison. Là aussi, on sait que le récit de la création a quelque chose de fortement symbolique, mais qu'il a des choses à nous dire aussi. Mais c'est une perspective, en fait, c'est une vraie réflexion du sabbat en lien avec une réflexion théologique sur le travail. Cette perspective théologique du sabbat est en lien, en réalité, avec la dynamique créatrice initiée par Dieu, qui nous invite à la fois à réinvestir le travail comme un lieu digne de notre engagement, mais aussi à donner du sens à ce que nous faisons. Parce que si vous lisez bien, en fait, il y a une fin. Il y a une fin. Nous sommes invités à faire en 6 jours, en 6 mois, en 6 ans, en 6 heures, ça dépend des fois. Eh bien, nous sommes invités à faire un projet fini. Cela nous invite à terminer ce à quoi nous nous sommes engagés. Cela peut paraître anecdotique, mais aujourd'hui, je pense que nous pouvons l'entendre encore mieux. Dans une société où on passe vite et où on a tendance à oublier ce qui a précédé. Et puis, je reviens d'un camp de jeunes, alors je peux vous dire que ça zappe beaucoup et que faire un projet avec eux, c'est quand même compliqué. Et que plus on entend, plus on nous dit, eh bien, c'est pas grave, il faut passer à autre chose. Eh bien, je pense que non. C'est bien de savoir terminer ce qu'on commence. Alors, des fois, ça peut se terminer par un échec, mais il faut au moins passer à autre chose. C'est mieux quand ça ne se termine pas par un échec, mais bon, il faut aussi accepter ça. Ainsi, Dieu nous invite à terminer ce à quoi nous nous sommes engagés. Et il nous invite à se poser, regarder ce que nous avons fait, peut-être pour faire le bilan, c'est bien, c'est mal, et à continuer et à s'engager dans quelque chose de nouveau. Ainsi, ce sabbat a une dimension fortement importante encore aujourd'hui. Et puis, cela nous dit aussi, ce récit de la création qui se termine par l'institution du sabbat, c'est que désormais, nous pouvons adorer Dieu partout. En fait, tous les récits de création se terminent, dans l'Orient ancien, par l'institution d'un temple. Et celui-là, il se termine par l'institution, non d'un lieu pour Dieu, mais d'un temps pour Dieu. Et cela nous invite à adorer Dieu partout. Nous ne pouvons pas nous enfermer, dire « je n'ai pas le temps, je n'ai pas d'endroit ». Non, nous sommes invités à adorer Dieu partout et faire que sa création, eh bien, nous puissions continuer à la tisser avec lui. Enfin, dans le Deutéronome, cela rappelle profondément le repos pour soi et pour les autres, mais cela rappelle que nous avons été esclaves, nous aussi. Et en effet, nous sommes invités à rappeler que Dieu nous a libérés et donc nous aussi à libérer ceux qui nous entourent. La dimension est très forte, là aussi. Et nous rappelle la dimension dans laquelle s'inscrit cette table de la loi, ces 10 commandements, pas que le sabbat. C'est la dimension d'un récit. Et ce récit, c'est le récit de la libération d'un peuple. Ainsi, toutes les lois que nous donne Dieu ne sont pas là pour nous contraindre, mais bien au contraire pour nous libérer. Et c'est peut-être même le sens essentiel de la loi, c'est de nous libérer. Eh bien, si une loi ne nous libère pas, eh bien, ce n'est pas une loi bonne, en quelque sorte. Ainsi, c'est ce que nous dit Jésus lorsqu'il se balade à travers les champs. On est de nouveau avec des symboles et puis des éléments agricoles, et puis que ses disciples mangent le blé. Essayez de manger du blé, vous allez voir, c'est pas terrible, hein, le manger direct comme ça. Quand j'étais petite, on le mâchait pour faire du chewing-gum, mais enfin, finalement, le chewing-gum, c'est mieux. Mais donc, le blé en lui-même, il faut quand même en faire autre chose. Donc, on voit bien que ce récit est un peu bancal et qu'il cherche à nous dire autre chose. Cette autre chose, eh bien, Jésus va le mettre en place par la suite. Parce que c'est pas tant ces quelques graines que les disciples mangent que tout le reste. Jésus, tous les premiers miracles, les premiers signes de Jésus dans les quatre évangiles, eh bien, se situent un jour de sabbat. Comme pour nous dire que eh bien, l'essentiel, c'est la vie, c'est la libération, parce que dans les récits de miracles de Jésus, il y a ça aussi. C'est de donner la vie à l'autre et de lui donner la possibilité de vivre. Et que c'est bien plus essentiel que respecter un temps de sabbat. C'est pas pour ça qu'il faut pas s'arrêter. De temps en temps, il s'arrête, Jésus aussi, on le voit, il prie. Il mange, il fait autre chose que son travail de sauveur. Il fait bien d'autres choses et nous sommes invités, nous aussi, à faire bien d'autres choses. Alors, oui, il faut respecter ces temps, mais il faut aussi donner eh bien, du souffle à tout cela. Ainsi, nous pourrons comprendre exactement ce que nous voulons et ce que nous devons faire. Les chrétiens, d'ailleurs, se sont bien gardés de garder le sabbat. Vous savez, le dimanche, ce n'est pas le dernier jour de la semaine, mais le premier, ou le huitième, si vous voulez. Le dimanche, c'est le jour de la résurrection. Nous ne fêtons pas la fin de la création, nous ne fêtons pas la libération, nous fêtons la résurrection. Nous recentrons donc le sabbat, le repos pour Dieu, non sur une loi, sur une loi qui pourrait nous enfermer elle-même, mais nous recentrons eh bien, ce jour sur une personne, la personne du Christ, le Christ qui est la parole de Dieu. Nous relativisons ainsi l'institution et nous en cherchons surtout le sens. Chercher le sens des choses, voilà ce à quoi nous sommes invités. Premier jour donc où nous célébrons la résurrection, le jour de la nouvelle création, du nouvel exode, dans la foi, dans ce Christ ressuscité qui nous libère et qui nous annonce l'espérance. Ce jour devient un jour de lumière, mais aussi le jour de la nouveauté, le jour où nous sommes invités, nous aussi, à être créatifs, à participer à la création de Dieu. À la fois, bonne nouvelle, parce que nous sommes libérés de l'emprise du rite, mais aussi lourde responsabilité, parce que dès le début, dès les premières pages de la Bible, et encore plus avec la venue de Christ, Dieu nous dit que nous sommes libres. Il nous laisse cette liberté. Mais il nous dit également qu'il nous confie tout cela. Et nous avons donc la responsabilité. Mais cette responsabilité, c'est aussi une bonne nouvelle. Parce que cette responsabilité, il nous dit que nous ne sommes pas aussi nuls que nous pouvons le croire. Et dans une société où on se croit soit tout puissant, soit complètement nul, il est pas mal de se rappeler ça. Nous ne sommes pas aussi nuls que ce que nous voudrions le croire. Tout à l'heure, j'ai lu la Confession des péchés de Calvin. J'avoue que je l'aime pas beaucoup parce qu'elle n'arrête pas de dire que nous sommes vraiment en dessous de tout, que seul Dieu peut et que nous ne pouvons rien. Je ne crois pas ça. J'aime la dire parce qu'elle s'inscrit dans l'histoire, mais je ne crois pas ça. Je crois que si Dieu nous a confié tout cela, c'est parce qu'il sait qu'en nous, il y a justement un peu de son image et que nous sommes invités à faire briller, à aller chercher au fond de nous et au fond de l'autre ce qu'il y a de l'image de Dieu, ce qu'il y a de divin en chacun et en chacune d'entre nous. Ainsi, Pâques s'enracine dans cette double compréhension du sabbat. Pâques que nous fêtons, nous les chrétiens, chaque dimanche. Pâques qui est à la fois l'acte créateur de Dieu qui ressuscite la vie là où elle est et qui libère l'être humain de ce qui le rend captif. Que ce sabbat que nous fêtons presque, eh bien, chaque... que nous ne fêtons plus, mais cette Pâque que nous fêtons plutôt, soit le jour où... Excusez-moi. Que ce sabbat, que cette Pâque soit le jour où nous puissions renouveler nos désirs, eh bien, de lumière, de nouveauté, être à nouveau créatifs avec ce que Dieu nous offre. Ainsi, dimanche après dimanche, et même tout au long de la semaine, nous sommes invités à libérer notre énergie créatrice. Et dans ce cas, oui, le sabbat est vraiment fait pour l'être humain. Amen.